RFI. Grand reportage.
En Libye, la course à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre s'accélère. Le week-end dernier, au lendemain d'une conférence internationale à Paris, le fils de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, a rejoint la cohorte des candidats. Une candidature qui risque de déchirer les Libyens puisque le fils de l'ancien guide est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Pourtant, la population n'aspire qu'à la stabilité après quasiment une décennie de conflits et de chaos politiques. Libye, à quand la stabilité? C'est un grand reportage d'Abla Jounaïdi.
Sur une plage de Tripoli, des familles profitent des derniers rayons du soleil de la journée, loin des tumultes de la guerre qui frappaient aux portes de la ville il y a encore 2 ans. Plus loin sur le sable, la seule agitation est celle des débats entre Ramadan, Mohamed et Salem. Les 3 amis sexagénaires débattent de politique. C'est moi le candidat idéal, plaisante Ramadan en référence aux élections que doivent organiser les autorités intérimaires fin décembre. Ce retraité savoure le retour d'une forme de stabilité dans la capitale libyenne.
Tout va bien pour nous à Tripoli. Il y a de l'eau, de l'électricité, on reçoit nos salaires, l'argent liquide est à nouveau disponible. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les élections aient bien lieu le 24 décembre pour mettre fin à la division dans ce pays. C'est tout ce qu'on espère. Et celui qui l'emporte, on le saluera, que l'on soit pour ou contre lui.
Pourtant, à l'évocation de certains candidats comme Saïf al-Islam Kadhafi, Mohamed, qui avec ses amis a vécu l'époque du guide libyen, ne montre aucun enthousiasme.
Saïf al-Islam a fait son temps. Il était aux manettes sous son père et il n'a rien fait. Son programme économique, la Libye de demain, on n'en a pas vu la couleur. Qu'est-ce qu'il a fait au juste ? Lui et ses frères, ils ont fait leur temps. Il y a d'autres responsables de l'époque que j'accepterais de voir à la tête du pays, mais pas lui. Merci bien.
Une référence à Abdelhamid Baïba, l'actuel premier ministre intérimaire, dirigeait la holding libyenne d'investissement et de développement dans les dernières années du régime Kadhafi, avant de soutenir la révolution de 2011. Sa popularité est réelle de ce côté de la Libye, face à la perspective de voir une autre personnalité, le maréchal Khalifa Haftar, tout puissant dans l'Est libyen, se présenter à la présidentielle. Salem ne cache pas son inquiétude.
Si d'aventure un militaire prend le pouvoir, il ne laissera aucune place à l'opposition. Il faut que la loi encadre ses fonctions et assure la limitation des mandats. C'est pour ça qu'on se déchire avec l'Est. Surtout pour le scrutin de la présidentielle, qui est une nouveauté dans notre pays. Il faut encadrer ses pouvoirs au risque de revenir à la case départ. Lui seul s'exprime, lui seul décide sans consultation. Nous avons vécu cette expérience amère, nous n'en voulons plus. Beaucoup de Libyens se sont sacrifiés et il est hors de question de revenir en arrière. Il faut repartir sur de nouvelles bases.
La crise des liquidités qui frappait le pays depuis la fin du dernier conflit s'est apaisée cette année. Fini les longues files pour obtenir les précieux dollars, les autorités intérimaires ont décidé la dévaluation de la monnaie libyenne en début d'année. En cette fin de mois d'octobre à Tripoli, le marché noir des devises goûte lui aussi une certaine stabilité. Salah est changeur dans la Médina, il va voter pour Abdelhamid Baïba.
Baïba a l'air de quelqu'un de parfait jusqu'ici. Il travaille pour les citoyens. Et s'il reste sur cette ligne-là, je lui souhaite tout le succès. Il a commencé à lutter contre la corruption, à améliorer la sécurité. Surtout, il s'occupe des jeunes. Les millions qu'il dépense, c'est pour les jeunes. Avant lui, beaucoup de politiciens ont dépensé des sommes importantes, mais c'était pour leurs amis, leurs proches, pour se soigner à l'étranger. Pendant que nous, les Libyens, on restait ici sans que personne ne s'occupe de nous. Le seul qui pense à nous, c'est Baïba, honnêtement. Et je voterai pour lui s'il se présente. J'espère que ce sera Baïba pour que le pays s'ouvre enfin aux pays étrangers, à l'Europe en particulier.
La dévaluation décidée en janvier a débloqué énormément de ressources boostées par l'envol du prix du pétrole. Le Premier ministre intérimaire les déploie sans compter. D'ailleurs, aucun budget n'a été voté par le Parlement basé dans l'Est libyen. Déjà, les contrats pour la reconstruction se multiplient avec la Turquie, l'Égypte, l'Italie, entre autres. Des investissements d'urgence dont le Premier ministre peut s'attribuer les mérites, comme il l'a fait lors de la conférence internationale de soutien à la stabilité de la Libye organisée fin octobre à Tripoli.
Nous avons travaillé à unifier les institutions de l'État et sérieusement contribué à mettre fin aux crises que subissent les Libyens, celles des liquidités, celles du crédit, les ruptures d'approvisionnement en carburant et en électricité, ou encore, comme vous le savez, le manque de vaccins disponibles pour affronter le coronavirus. La stabilité qu'a connue la Libye ces derniers mois se reflète dans un ensemble de mesures. D'abord, l'augmentation des salaires pour plusieurs catégorie de fonctionnaires durement frappés par la crise économique. D'ici l'été prochain, la Libye aura surmonté cette crise de l'électricité dont la cause est la guerre.
Cet opportunisme politique, on l'a vu, séduit une partie de la population dans l'ouest de la Libye. Le Premier ministre par intérim n'a pas hésité à distribuer des chèques pour aider des milliers de jeunes à se marier. Ahmed, Hossam et Nesrine sont trois jeunes originaires, comme le Premier ministre, de Misrata, ville symbole de la révolution de 2011. Cette révolution qui a mis fin au régime de Kadhafi a freiné aussi la carrière de Nesrine, 24 ans à l'époque.
Encore aujourd'hui, à chaque fois que j'y pense, l'émotion m'envahit. Beaucoup de gens sont morts, c'est gravé à jamais dans nos mémoires. Je venais de passer mon diplôme lorsque la guerre de 2011 a éclaté. Je n'ai pas pu poursuivre, je n'ai jamais pu exercer et mon diplôme est resté de l'encre sur un papier. J'ai surtout fait du bénévolat en soins infirmiers à l'hôpital militaire de Tripoli. C'était juste après la révolution. On aurait fait n'importe quoi pour la révolution. Mais à part ces activités-là, je n'ai jamais pu travailler vraiment parce qu'il aurait fallu reprendre mes études depuis le début.
Hossam et Ahmed, eux, avaient aussi 20 ans, en 2011.
Ahmed était en ville, moi sur le front Est. Mon père était déjà mort à l'époque, mais il m'avait raconté les horreurs des guerres sous Kadhafi. Il a perdu beaucoup d'amis au Tchad et il en parlait souvent avec tristesse. On a grandi avec ces histoires. Je revois ma mère me dire en 2011, si ton père était vivant, il serait le premier à descendre manifester. Donc je veux que tu y ailles. On y est allé avec mon grand frère et on a fini par rejoindre ce qui deviendra l'une des plus grandes brigades de Misrata.
Mais les guerres ont succédé aux guerres et celle de 2014 contre le rival de Zintan a accéléré la partition du pays. C'était une grave erreur, reconnaît Hossam aujourd'hui.
Jusqu'ici, on s'était battu ensemble avec Zintan. On avait les mêmes principes, les mêmes buts, et tout à coup, on se retrouvait à se combattre. Avec une violence inouïe, franchement. Même si on a vu pire ensuite avec la guerre contre Daesh, la guerre de 2014 était une guerre cruelle, et chacun croyait se battre pour une cause juste. Nous pour le Parlement, et eux parce qu'ils s'estimaient légitimes à Tripoli. On a perdu beaucoup de figures de la révolution pendant cette guerre-là.
Comme beaucoup d'anciens combattants, Hossam n'aspire pas à intégrer des forces armées et de sécurité. Faute d'unité politique, leur unification tarde à voir le jour. En Libye, aucun programme national de désarmement, démobilisation et réintégration n'a jamais pu être mené.
Moi, je suis un civil, pas un militaire. J'ai terminé mon master et j'ai commencé à travailler. Je suis toujours allé me battre comme volontaire. En 2012, à Bani Walid, à Tripoli, en 2014. En 2016, quand la guerre contre Daesh a éclaté, j'ai lâché mon travail et j'y suis allé. Pareil pour l'opération Volcan de la colère contre Haftar en 2019. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'intention d'intégrer l'armée. Dans ma famille et dans ma ville, en général, on n'a pas de culture militaire. Ce n'est pas comme les villes proches des frontières où peut-être c'est plus courant d'entrer dans l'armée parce qu'il n'y a pas toujours d'alternative. Mais nous, à Misrata, on a le commerce ou bien on fait un travail en lien avec nos études. C'est la voie que j'ai choisie après la première guerre de 2011. J'ai terminé mes études.
Des guerres qui laissent des traces sur les corps, des blessures invisibles aussi. Pour Ahmed, ce sont autant d'obstacles qui barrent son chemin.
« Je suis resté 2 ans à ne rien faire, au même endroit, sans travailler. La pression psychologique était trop forte. Je vous dis, dans mon groupe, ils sont quasiment tous morts, y compris mon grand frère. Je n'avais plus envie de sortir. On me disait, viens, on va faire un tour. Et je répondais, non, pas aujourd'hui, même si je n'avais rien de mieux à faire. Je me demandais comment j'allais m'en sortir. Comment tu veux y parvenir quand tu as autant de soucis, autant de stress? Je ne parle pas seulement du souvenir de la guerre, je parle aussi de problèmes matériels, les problèmes familiaux. Tout ça empêche de penser, de se présenter pour un travail. On se met la pression et on se dit « Non, cet employeur va me refuser, c'est sûr ».
La réintégration économique des jeunes vétérans libyens, c'est le combat de l'ONG française Supernova, créée cette année par 2 anciens d'Expertise France, l'Agence de coopération technique internationale. Aux côtés de quelques partenaires privés libyens, avec des financements français et européens, elle encadre la formation de 200 anciens combattants à Misrata et à Zintan. Stéphane Véran est consultant sur ce projet.
Les jeunes que nous avons en face de nous sont des jeunes qui considèrent essentiellement qu'ils ont œuvré pour la liberté, qu'ils n'ont finalement que très peu de retours sur cet investissement de leur vie, que l'image qu'ils ont, qu'ils dégagent, est un réel frein et que toutes les structures qui pourraient les aider aujourd'hui font défaut. Et donc, ils essayent surtout de s'en remettre à eux-mêmes. Ils veulent créer leur propre entreprise, ils veulent monter une activité, monter un business, tout en sachant qu'ils n'ont pas forcément une idée très précise de comment il faut faire, de ce qu'ils veulent faire. Et donc, aujourd'hui, ils sont un peu dans une phase entre deux eaux. Mais on a vraiment affaire à une population qui a envie de prouver qu'elle peut apporter quelque chose, qui a envie de faire ses preuves et d'être jugée sur ses actes à venir et non pas sur leurs actes passés.
Parmi les partenaires privés libyens de Supernova, il y a le groupe Nassim, leader de l'agroalimentaire dans le pays. Son fondateur, Mohamed Raed, est aussi député de Misrata. En ce moment, il est au téléphone avec un collègue de l'est de la Libye.
Je viendrai avec plaisir, tu sais, mais il n'y a plus de vol. Je ne crois pas que l'aéroport de Benghazi est rouvert. Si ? Si ça rouvre, on vient, pas de problème.
Après un début d'année plein de promesses et d'annonces d'unification des institutions, gouvernement, banque centrale, les divisions refont irruption à l'approche du scrutin de décembre. Un scrutin auquel Mohamed Raed ne croit pas, du moins pas pour le moment.
Nous voulons tous des élections, mais malheureusement l'environnement n'est pas encore propice. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un membre du camp de Haftar puisse faire coller ses affiches ici à Tripoli ? Impossible. Est-ce que les principaux candidats de l'Ouest libyen peuvent faire de même à Benghazi ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui les résultats seraient acceptés ? Non. Si le fils Haftar se présentait, quelqu'un irait-il le défier là-bas à Benghazi ? Il serait menacé immédiatement. Alors pourquoi faire des élections ? Le scrutin ne peut pas avoir lieu de façon juste, même avec tous les efforts de l'ONU pour déployer des observateurs. Et c'est un gros problème.
À 2 pas dans la rue de ce quartier central de Tripoli, une affiche avec le visage du maréchal Haftar barré d'une croix rouge et d'un slogan « Non aux criminels de guerre » semble lui donner raison. Mais l'homme qui murmure à l'oreille des premiers ministres a un plan.
La solution, c'est de mener une réconciliation économique. Et cela avant même une réconciliation sociale. Les Libyens se battent pour quoi ? Pour l'argent. Chacun se sert dans les réserves du pétrole et se plaint ensuite de ne pas avoir reçu assez d'argent alors qu'il a reçu 5 fois trop. Voilà pourquoi nous avons suggéré au gouvernement de partager la Libye en 12 provinces. On partage le budget ou les revenus pétroliers entre ces 12 provinces en fonction de la démographie et des spécificités géographiques. On leur donne les compétences pour l'éducation, le salaire des fonctionnaires de la province qu'ils géreraient à leur guise. Mais la réforme qui nous importe tout autant, c'est d'assécher les sources de la corruption. L'une des premières sources de la corruption, c'était le taux de change. Il ne doit y avoir qu'un taux et les devises doivent être accessibles à tous, sans restriction, comme partout ailleurs dans le monde. L'autre source de corruption, ce sont les douanes. En Libye, non seulement les taxes ne s'appliquent pas à tous, mais l'État libyen n'en tire pas assez profit.
Pour cela, comme pour d'autres décisions d'importance, telles la fin des subventions sur le carburant qui favorise les trafics, une simple signature du Premier ministre suffit, soutient l'homme d'affaires. Et tant pis pour les aspirations démocratiques des Libyens, le pays n'est pas prêt, souligne l'élu de Misrata. Abdel Fattah Salama n'envisage certainement pas d'assister au scrutin de décembre. Mais ce n'est pas par manque d'aspiration démocratique. L'homme de 65 ans a passé des mois loin de sa maison dans le sud de Tripoli. Il commence à réintégrer les lieux avec sa famille de 6 enfants, une ferme de 4 hectares, ou ce qu'il en reste.
Il y avait 3 postes de tir improvisés. L'un d'entre eux était dans ce bâtiment, au 2e étage. On a retrouvé les sacs de sable. Il y en avait un autre à gauche, là. Ma ferme, c'était un lieu de bataille. Les obus et toute l'artillerie qui est tombée, ici, on ne peut pas les compter. Notre ferme est tapissée de projectiles. Sur le sol, les murs, les toits, il y en a partout.
Le complexe, composé d'une villa immense avec piscine ainsi que d'une usine, un couvoir à poussins, est investi alternativement par les forces gouvernementales et celles du maréchal Haftar pendant la dernière guerre.
Ici, c'est le dernier endroit avant la ligne de front. Il y a la route en contrebas et après, c'était les forces gouvernementales. Dans ma maison, il y avait les rebelles. Donc les échanges de feu étaient intenses et les hommes de Haftar sont restés ici jusqu'au dernier moment.
Câbles de cuivre arrachés, climatiseurs subtilisés, chez Abdel Fattah, les pillages ont succédé à la destruction des combats. À l'arrivée, l'homme se demande qui est le plus à blâmer, le gouvernement ou le maréchal de l'Est. Les élections, il ne compte pas y participer. Seule certitude, il est seul pour remettre sur pied une usine qui faisait vivre une cinquantaine de familles jusqu'à la dernière guerre.
Toute personne qui vient en paix peut être accueillie par tout le monde. Mais si tu viens en tuant, en détruisant et en faisant fuir les gens de leur maison, comment veux-tu qu'on t'accepte ? Si tu veux faire de la politique, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais en venant en force, en tuant les gens, en les faisant fuir, tu peux être sûr qu'ils te résisteront de toutes leurs forces et par tous les moyens. Quiconque veut venir par des moyens pacifiques et légaux est le bienvenu. En tant que victime, de mon point de vue, les gens comme moi devraient être prioritaires. On devrait s'occuper de nous en premier. On voit défiler les millions dépensés, mais rien pour nous, sauf des promesses. Et aucun officiel n'est même venu nous rendre visite ici, malheureusement.
Retour dans le centre de Tripoli où l'on s'apprête à quitter les anciens révolutionnaires de Misrata. Hossam Ahmed et Nesrine abordent cette nouvelle étape de la longue transition libyenne avec un mélange de lassitude et d'espoir.
En 10 ans, on a perdu beaucoup de temps. Il aurait fallu mettre à profit ces années pour construire, garantir un avenir aux jeunes, pas les mener de guerre en guerre. Qu'on mène des batailles pour notre éducation, pour notre économie, notre commerce. Pourquoi est-ce qu'on nous embarque de guerre en guerre ?
Mon sentiment, c'est qu'on a perdu des années précieuses de nos vies. Mais l'avenir nous dira peut-être si cela a vraiment servi à quelque chose, surtout pour notre jeunesse. C'est elle qui s'est sacrifiée le plus. A-t-elle compris, cette jeunesse, que la guerre est sans espoir, qu'elle n'apporte que destruction ? J'espère qu'elle a appris au moins cela. Moi, j'ai appris que la guerre ne construisait rien, même si j'ai cru au début que c'était la solution. Non, c'est du gâchis à tous les niveaux, matériel, humain, moral.
Des élections crédibles, inclusives, un scrutin parlementaire et présidentiel le 24 décembre, tel était l'engagement des belligérants libyens l'année dernière à Tunis. La majorité des Libyens souhaitent ces élections pour pouvoir désigner enfin leurs dirigeants et engager aussi la reconstruction tant attendue depuis 10 ans. Mais tant d'obstacles se dressent encore sur la route d'ici le scrutin. L'opposition politique des partisans du statu quo et les milices armées qui les soutiennent, des forces militaires et les mercenaires étrangers encore présents sur le territoire libyen, les déplacés internes qui rendent encore plus complexe le travail de la commission électorale. Mais plus encore, la grande inconnue de ce scrutin, c'est l'acceptation des résultats dans une Libye toujours fracturée.
Libye, à quand la stabilité ? Un grand reportage d'Abla Jounaïdi, réalisation Laurie Plisson.